7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Vendredi 8 mars, oui, comment l'oublier aujourd'hui, journée internationale des droits des femmes. Depuis le début de la journée, RFI se mobilise et il y a tant à faire. Les femmes produisent de 60 à 80% des aliments dans la plupart des pays en développement. Elles sont responsables de la moitié de la production alimentaire mondiale. Elles sont au cœur de l'agriculture. Elles créent de petites entreprises, souvent, trop souvent informelles, pour transformer les matières premières sur le continent africain. Et surtout, elles détiennent la solution de la croissance démographique, à condition que les femmes soient libres, libres de leur mouvement, libres d'organiser leur vie, de leur famille aussi, comme bon leur semble. Une femme qui travaille réinvestit 90% de ses revenus dans l'éducation, dans l'alimentation et la santé. Alors comment mieux prendre en compte ce rôle indispensable des femmes dans le développement économique et durable et social? Les femmes sont-elles la clé de l'émergence pour sortir de la pauvreté? Nous allons en discuter avec des femmes actives dans le développement. Avec nous dans le studio, Katia Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de plaidoyer pour le programme Liberté pour Amnesty International France. Et vous allez nous expliquer à quel point aujourd'hui nous vivons dans une époque où les femmes sont en première ligne des victimes des répressions, aussi en première ligne des résistances. Patricia Jomseux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente déléguée de l'association Women of Africa qui met en place des programmes de développement en faveur des femmes, des jeunes et des enfants. Et vous jouez un rôle modèle. Vous nous expliquerez aussi pourquoi les femmes ont encore et plus que jamais besoin de modèles aujourd'hui pour s'accomplir et pour inventer leur destin. On sera également en ligne avec Kumbasso, qui est spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel au sein de l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, et également Justine Koulidiati-Kielem, qui est coordinatrice régionale de la plateforme des femmes du G5 Sahel. Et bien sûr, les voisines, vous avez la parole dès maintenant pour nous raconter comment autour de vous des femmes participent au développement de votre pays. Notre numéro WhatsApp, c'est le 33 1 84 22 71 71.
Quand je bats pour que les femmes soient présentes et qu'elles soient nombreuses, c'est parce qu'en définitive, nous apportons autre chose.
Tout part d'un rêve.
Il suffit d'écouter les femmes.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Simone Veil le disait si bien, il suffit d'écouter les femmes. Eh bien, tout de suite, c'est ce que nous faisons. Message d'une voisine à Abidjan. Conseil aux femmes trop silencieuses qui ont deux boulots.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines, je suis Dumondé Sita, j'interviens depuis Abidjan. Au sujet de l'entrepreneuriat, j'aimerais dire deux petites choses. Ça demande beaucoup de moyens, mais on peut commencer à entreprendre en travaillant à domicile. Il faut juste une bonne organisation, mais avec beaucoup de discipline, on y arrive. Il faut juste avoir une passion, trouver un secteur d'activité qui vous passionne, ajouter à cela une vision qui apporte un plus à ce qui se fait déjà. Moi, ce qui me passionne, c'est l'art du crochet. J'ai donc travaillé à transformer la technique du crochet en une technique que je mets aujourd'hui au service de la création artistique. C'est de l'art. Je communique à travers les réseaux sociaux. J'exploite également les opportunités qui s'offrent à moi, comme de parler sur RFI aujourd'hui d'entrepreneuriat. Ça aide à faire entendre. Il faut être à l'écoute et puis il faut y croire. Il faut croire en son projet. Excellente journée à tout le monde.
Patricia Jomseux, il suffit d'écouter les femmes, il suffit d'y croire, il suffit d'eux, mais dans la réalité, c'est pas si simple.
Ce n'est malheureusement pas si simple. Il y a énormément de freins aujourd'hui auxquels les femmes doivent faire face. Concernant l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on le voit, les femmes sont le moteur, je dirais, de l'économie en Afrique. Malheureusement, elles doivent faire face à deux freins essentiels. La pauvreté, d'une part, et d'autre part, l'insécurité sociale. Donc, les besoins des femmes aujourd'hui sont de plus en plus nombreux. Elles nous interpellent dans différents domaines. Elles ont besoin de formation, elles ont besoin de financement. La seule volonté et la seule capacité des femmes, effectivement, à se mobiliser ne suffit pas. Elles doivent avoir un accompagnement qui doit être, je dirais, structuré, qui doit également être intelligent, parce que nous devons faire face aujourd'hui à un certain nombre je dirais, de modèles nouveaux, d'adaptabilité à la nouvelle société, à la nouvelle donne. Aussi bien les femmes rurales que les femmes qui vivent dans les zones périurbaines font preuve d'un dynamisme absolument incroyable. Et nous devons donc apprendre finalement d'elles pour pouvoir construire avec elles des structures de vie autogérées et autonomes.
Oui. Patricia Jomseux parlait de cette nouvelle société. Katia Roux, on a le sentiment qu'aujourd'hui les femmes veulent davantage être entendues, prendre la parole et que la société se réorganise en fonction de leurs aspirations. C'est pas sans prendre des risques politiques, économiques.
Absolument. Ce qu'on constate, et on a pu le constater tout dernièrement sur l'année écoulée par exemple, c'est que les femmes aujourd'hui, partout dans le monde, sont en première ligne du combat pour les droits humains. Et elles doivent le faire effectivement, comme il a été dit, parce que dans tous les aspects de leur vie, finalement, elles sont victimes de discrimination ou d'inégalité. Les droits des femmes ont systématiquement été placés un échelon en dessous des autres droits ou des libertés fondamentales et finalement sont très peu protégées concrètement par les gouvernements. On a aussi vu des discours, la montée de discours misogynes et clivants. On peut penser aux États-Unis avec Donald Trump, au Brésil avec Bolsonaro, qui réduisent aussi leur capacité d'action. Et enfin, il y a tout un tas de politiques et de lois qui sont passées justement pour quelque part victimiser les femmes et les empêcher de jouir de leur liberté. Et donc effectivement, face à tout ça, les femmes n'ont pas d'autre choix que de réagir, de monter au créneau partout dans le monde, en Afrique effectivement, comme on l'a
tout
vu, pour l'autonomisation économique, mais effectivement
absolument
partout dans le monde. Et ce faisant, elles prennent des risques. Elles prennent des risques parce qu'elles deviennent militantes de leur propre cause, elles deviennent des femmes défenseurs des droits humains, donc c'est-à-dire qu'elles s'engagent pour la promotion et la défense des droits de manière pacifique, et de ce fait, elles sont exposées à des risques, les mêmes risques que les hommes, défenseurs des droits humains, mais des risques aussi spécifiques liés à leur genre et à leur identité de femme. On pourra peut-être y revenir avec
des exemples concrets,
mais effectivement, elles s'exposent. Mais ça ne les réduit pas au silence.
Et elles ont compris que personne n'allait parler à leur place, finalement.
Absolument.
Alors, on l'a dit, vous l'avez dit, Patricia Jomseux, les femmes, surtout sur le continent africain, sont au cœur du développement économique,
oui,
mais en même temps, beaucoup trop souvent reléguées à des entreprises informelles.
Absolument.
Et énormément, bien sûr, au cœur de l'agriculture.
Mmh.
Nous sommes en ligne avec Kumbasso de la FAO. Bonjour Kumbasso.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Rome. On associe souvent les femmes à une agriculture sans tracteur, une agriculture peu productive, l'inverse de ce que devrait être l'agriculture aujourd'hui, innovante, créative. C'est le cas au Sahel. Comment se positionne aujourd'hui la FAO pour que les femmes qui triment quand même tout au long des dures journées ensoleillées dans ces champs soient de nouveau estimées à leur juste valeur et comme cheville ouvrière d'une modernisation de l'agriculture aussi?
Alors, il faut savoir que pour la FAO, les femmes sont l'épine dorsale de l'économie rurale, hein, surtout dans les pays en développement.
Oui.
Elles représentent la moitié des agriculteurs dans le monde et sont depuis quelques décennies de plus en plus impliquées dans l'agriculture. Le nombre de foyers dirigés par une femme dans les zones rurales augmente, car les hommes ont tendance davantage à aller en ville, à migrer en Europe, etc. Et donc, ce sont ces femmes qui s'occupent en grande partie de la famille, de la communauté, et qui jouent donc ce rôle prédominant dans l'alimentation et la nutrition. Donc, elles constituent pour la FAO un maillon de la chaîne absolument essentiel entre le champ où l'on produit et l'assiette. En vue des objectifs de développement durable, surtout l'ODD2 qui vise à éliminer la faim et la malnutrition à l'horizon 2030, pour nous, les femmes sont piliers. Ce sont des agents incontournables de ce changement dans l'agriculture, la nutrition, mais également le développement rural en Afrique et particulièrement au Sahel, qui subit à la fois des chocs du changement climatique, des conflits où on ne peut bénéficier d'un bon retour que si l'on investit sur les femmes, leur donner un meilleur accès à l'information, à la formation, aux nouvelles technologies surtout, parce
oui,
que c'est là où on voit vraiment qu'elles sont un peu en arrière. et elles peuvent désormais infléchir, disons, des modes de production de consommation vivrière,
ouais.
et une gestion durable.
Et quand vous dites, on le voit bien, les femmes sont un peu en arrière, c'est-à-dire mal informées, mal formées aussi pour transformer l'agriculture dans des pays qui font face à un tel stress démographique pour nourrir tout le monde dans les pays du Sahel, il va falloir que l'agriculture se transforme. Quelle est la place des femmes, par exemple, dans les organisations paysannes aujourd'hui, si on regarde le continent africain, Koumbasso?
Alors, disons qu'il y a deux choses. Les femmes, elles ont la connaissance. Elles sont gardiennes des ressources génétiques, par exemple, des semences. Ce sont les femmes rurales indigènes qui pensent à comment nourrir les générations futures, grâce à des recettes et des techniques anciennes. Cela est connu, reconnu. Il faut les organiser, il faut pouvoir extraire cette connaissance, l'améliorer s'il le faut, l'adapter et ensuite pouvoir la partager. Quand on regarde les organisations paysannes en général, on a vu qu'une femme est présidente de la plus grande association de producteurs en Afrique, SAFO, qui s'appelle Elisabeth Atangana. Donc, nous pouvons dire que les femmes ont vraiment accès à un niveau important dans la défense de leurs droits, les femmes agricoles, je parle,
oui.
Mais cela ne se transmet pas forcément à un niveau plus bas.
Oui.
Il y a beaucoup plus de choses à faire en termes de formation, en termes d'accès, oui. Leur donner accès à cette information dont je parle.
Mais c'est finalement, pardonnez-moi oui. Koumba, donc c'est finalement le rôle, je dirais, domestique de la femme qui s'étend vers les organisations communautaires au sein des zones rurales. Je voudrais en parler, je voudrais insister là-dessus parce que nous avons l'occasion aussi aujourd'hui de pouvoir présenter au-delà effectivement des théories, etc., de présenter des exemples concrets pour que les femmes qui nous écoutent sachent effectivement qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des actions qui sont menées notamment par la FAO, mais aussi par Women of Africa et par d'autres organisations qui leur permettent effectivement d'impacter de manière positive leur milieu. Donc aujourd'hui, de manière concrète, les femmes rurales, les femmes périurbaines et les femmes aussi qui vivent dans les zones urbaines doivent comprendre et doivent pouvoir être effectivement informées de ce qui se fait, de ce qu'elles peuvent faire, du type d'information
et d'être
dont elles ont
dans
besoin,
des cercles de décision
voilà,
et dans des cercles
où elles peuvent aller le chercher
et dans des cercles d'organisation paysanne parce
voilà.
Qu'en réalité on voit surtout beaucoup d'hommes dans les cercles d'organisation paysanne qui sont des cercles qui sont consultés par les politiques.
Absolument,
par exemple les femmes sont beaucoup moins consultées. Comment les femmes peuvent participer à la modernisation de l'agriculture alors qu'elles possèdent pas de terre, Koumbasso?
Alors, les soutenir pour avoir l'accès à la terre est effectivement clé. Il y a des gouvernements qui mettent en place des solutions, des articles de loi. Je pense au Sénégal, par exemple, avec l'acte 3 de la décentralisation, qui permet vraiment aux femmes d'avoir accès à la terre. Mais la terre seule ne suffit pas. Il faut des intrants, comme je disais, il faut des nouvelles technologies de l'information pour vraiment transformer les vies de plusieurs façons. Ça leur permet de contrôler leur culture, suivi des marchés, etc.
Ouais. Il y a un vrai problème aussi, c'est l'accès à l'eau, Koumbasso. Quelle est l'action de la FAO pour un meilleur accès à l'eau, puisqu'on sait que ce sont les femmes qui passent énormément de temps à aller chercher de l'eau dans les puits pour irriguer les cultures?
Absolument. Alors, pour l'accès à l'eau, la FAO a mis en place plusieurs types de systèmes pour assister les femmes. Mais particulièrement au Sahel, nous avons choisi un système qui s'appelle 1 million, une initiative 1 million de citernes pour le Sahel, qui s'inspire de l'expérience fin zéro du Brésil, qui est quand même arrivée à sortir 40 millions de personnes de la pauvreté. Alors, c'est des techniques très simples où on a une construction de citernes et un toit qui permet de récupérer de l'eau de pluie qui se conserve pendant 5 à 6 mois, qui permet à une famille de 5 à 6 personnes non seulement de consommer, mais également d'utiliser cette eau pour une petite production de légumes, de fruits, qu'on arrive à également vendre sur un marché pour conférer plus de revenus.
Pour rebondir sur la question de l'eau, je donnerai un exemple, si vous voulez bien.
Allez-y, Patricia Jones.
Alors, Women of Africa, je voudrais le préciser et saluer nos équipes au Togo. Nous venons d'achever un projet de création de réseau d'eau potable avec l'appui d'Aqua Assistance, qui nous a permis donc d'apporter de l'eau, de mettre en place des systèmes d'accès à l'eau pour les femmes dans les zones rurales au Togo. On parle là de 5 villages et de plus de 20 000 personnes. Donc, la corvée de l'eau est terminée et les femmes sont intégrées au sein de ce dispositif en tant que manager des plateformes de gestion de l'eau. Elles sont fontainières, elles sont payées, elles créent donc de la richesse. Elles peuvent de cette manière-là devenir autonomes. Donc elles sont véritablement au centre de l'action locale dans les villages. Donc ça, c'est très important à souligner.
On va laisser la parole à Justine Couli-Idiati qui vient de nous rejoindre de la plateforme G5 Sahel. Merci d'avoir été en ligne avec nous pour nous exposer la vision de la FAO concernant les transformations de l'agriculture justement dans le Sahel et la place des femmes ô combien primordiale dans ces transformations. Justine Couli-Idiati, KLM, bonjour à vous.
Bonjour.
La plateforme des femmes au sein de la coalition G5 Sahel, pourquoi mettre les femmes au sein de cette coalition G5 Sahel alors que tout le monde l'a constaté, la lutte contre le terrorisme ne se discute en règle générale qu'entre hommes ou presque ?
Très bien, merci bien RFI de nous permettre de parler en ce jour historique du 8 mars. Je veux vous dire que effectivement, les gens se posent la question de savoir pourquoi on met les femmes dans un dispositif où apparemment ce sont des hommes. Mais le G5 Sahel, dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, ce n'est pas seulement la force de feu. La force de feu, c'est pour repousser l'ennemi qui attaque. La force de feu, c'est pour protéger les personnes et les biens. Mais la résolution du problème de l'extrémisme violent et du radicalisme est sans doute un problème de résilience, un problème d'armes qui n'est pas à feu, c'est-à-dire de porter un appui aux populations afin qu'ils sortent de la pauvreté extrême, afin que l'infiltration liée à la mauvaise gouvernance et à toutes autres infiltrations puisse être résolue.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement que peuvent apporter les femmes quand on prend un pays comme le Burkina Faso où le conflit touche surtout des zones rurales, où les femmes, on l'a dit, ont un rôle clé dans l'amélioration de l'agriculture, comment on peut les impliquer dans un processus de paix alors qu'elles n'ont pas la parole sur ces questions-là ? Ou au pire, elles sont plutôt instrumentalisées, victimes ou instrumentalisées par des forces terroristes ?
Très bien. En effet, nous sommes conscients, lorsqu'on mettait en place la plateforme des femmes du G5 Sahel, que le plus gros problème qui devait venir allait venir des zones rurales, au regard de ce que je viens de dire précédemment. Je profite pour remercier Koumba pour son intervention, parce qu'effectivement, nous avons déjà tenu des rencontres. Nous avons fait des plaidoyers pour qu'on puisse effectivement relever le niveau d'éducation qui est primordial. Parce que si les femmes n'arrivent pas à capter l'information, même quand nous mettons à leur disposition des ressources, telles que les technologies, le matériel avancé pour la transformation, si elles ne savent pas comment l'utiliser, si elles ne sont pas informées, si elles n'ont pas de carte d'identité, si elles n'ont pas d'acte de naissance, elles ne peuvent pas y profiter. Donc c'est très important.
Donc leur permettre de jouer un plus grand rôle économique au cœur du secteur agricole, c'est une manière aussi, pensez-vous, de pacifier en partie la région ?
Oui, parce que ça permettra aux femmes d'augmenter leurs revenus, de prendre en charge, comme Koumba l'a dit, tout ce qui relève de la part alimentaire, mais aussi de l'éducation des enfants, de la santé, qui sont de loin des prérogatives des États. Si les femmes peuvent déjà jouer ce rôle pour alléger l'État qui n'arrive pas à s'en sortir, pourquoi ne pas impliquer les femmes ?
Est-ce que les femmes peuvent être impliquées dans des situations de dialogue, de médiation, telles qu'on le voit dans des sociétés traditionnelles ?
Parfaitement. Nous pensons justement que les femmes peuvent être au devant, parce que de naissance, la femme est un objet de paix. Et des familles de région, lorsqu'elles se marient, c'est deux familles qui sont devenues une, etc. Mais au-delà, elle est celle qui est dans les plus grandes instances. C'est-à-dire depuis la cellule familiale
La femme est là, elle peut veiller dans les ONG, dans les organisations paysannes. Elles sont les plus représentées au niveau spatial. Donc, ces femmes peuvent jouer déjà un rôle de, dans leur précoce, elles peuvent jouer un rôle dans le renseignement, mais mieux, elles peuvent, à partir de leurs ressources, mener des activités de médiation, des activités de gestion de conflits, des activités de dialogue social, des activités de sensibilité, d'information sur les crimes violents, mais aussi sur comment vivre. Mieux vivre ensemble.
Ouais, et qui commencent aussi à partir du foyer, notamment avec leurs fils, hein, qui peuvent être impliqués dans des conflits. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Justine Koulidiaty Kielem. Je m'excuse auprès des voisins, des voisines qui nous écoutent. La ligne téléphonique n'était pas formidable. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Bien sûr, vous nous appelez, surtout les voisines, aujourd'hui en ce 8 mars, 33 1 84 22 71 71. Les femmes sont-elles la clé de l'émergence pour sortir leur pays de la pauvreté? On en discute avec vous dans quelques instants.
Milliards de voisins, c'est sur RFI. You gotta be fortunate, you gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad, but I'm the kind of woman that was built to last. They tried erasing me, but they couldn't wipe out my past. To save my child, I'd rather go hungry. Got all these wounds that just won't heal inside of me, and my blood flows through every man in this godless land that delivered me. I've cried so many tears, even the black at sea. Woman, this is a woman's world. This is my world. This is a woman's.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI, vendredi 8 mars. Et aujourd'hui, notre sujet, les femmes sont-elles la clé de l'émergence dans les pays pour sortir de la pauvreté? On en discute avec vous, Patricia Jomseux, vous êtes présidente déléguée de l'association Women of Africa, qui met en place des programmes de développement en faveur des femmes, des jeunes, des enfants. Katia Roux, vous êtes chargée de plaidoyer pour le programme Liberté pour Amnesty International. Alors, on parlait de la situation au Sahel, où les femmes sont à la fois au cœur des systèmes agricoles, des systèmes agricoles qui ne parviennent pas à se réformer, à se moderniser pour nourrir la population, et des femmes qui en réalité n'ont pas tellement la parole, ne sont pas réellement libres de leur mouvement, libres d'organiser leur destin, leur vie comme elles le souhaitent. Vous souhaitiez réagir?
Oui, absolument, puisqu'effectivement, je pense qu'on entend très bien le fait que les femmes aujourd'hui sont actrices du changement. Je pense que ça a été très bien dit et très bien illustré dans les différentes prises de parole. Encore faut-il qu'elles aient l'espace pour aussi s'exprimer, pour revendiquer leurs droits, pour se mobiliser. Et donc là, effectivement, à la fois, il faut ces projets avec les dimensions formation, accompagnement, médiation, etc. Mais il faut aussi pouvoir corréler ça avec la préservation des libertés. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les femmes, dès lors qu'elles veulent revendiquer leurs droits, sont, comme je disais au début, attaquées en tant que femmes. Et ça, c'est lié aussi au contexte dans lequel elles interviennent et dans lequel elles agissent. Très souvent, dans des sociétés patriarcales qui ont des notions très arrêtées en matière de place de la femme, de sexualité, de rôle de la femme au sein du foyer, si une femme se mobilise, si elle prend la parole, si elle revendique ses droits, effectivement, peut s'exposer à des risques et donc ne pas finalement pouvoir poursuivre son action. Et donc, si son militantisme est perçu comme remettant en cause finalement les normes patriarcales, les normes hétéronormatives de la société dans laquelle elle s'inscrit,
elle s'expose
à des
représailles
absolument
sérieuses, oui, tout à fait.
Des représailles très très sérieuses, mm-hmm. et qui viennent de toutes parts, c'est-à-dire à la fois des acteurs étatiques, du public, des mm-hmm. médias, mais
et d'autres
venir
femmes aussi,
et d'autres femmes, exactement, et au sein même du foyer et de la sphère privée.
Absolument,
donc
fait.
Effectivement, il faut toujours avoir en tête ces différents niveaux, c'est-à-dire qu'il faut au niveau local pouvoir appuyer des projets très concrets, effectivement, et d'accompagnement, et en même temps, il faut aussi à un niveau politique,
eh oui.
à un niveau régional, international, interpeller les responsables pour que ces espaces-là soient garantis.
C'est un peu comme l'économie informelle et formelle, hein, finalement. Les femmes règnent sur la famille et le quartier, mais dès que ça monte, ça pose problème.
Absolument, il faut jouer à tous les niveaux.
Mais c'est un numéro d'équilibriste absolument incroyable, donc il faut trouver des solutions, il faut créer des ponts, il faut être en capacité effectivement de se rébeller de manière intelligente. Il faut, voilà.
Et des transformations qui profitent aussi aux hommes.
Oui,
parce que ça, il faut le dire, que ces transformations sont positives pour tout le monde.
Absolument.
Marthe nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Marthe Nadine, hein, je crois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Bénin, vous vous présentez au Standard comme logisticienne et militante dans plusieurs organisations de la société civile, et vous êtes maman de deux enfants. Je suis désolée, je le précise parce que vous aviez envie qu'on le précise, mais il y a des femmes qui ne veulent plus qu'on précise d'ailleurs leur situation familiale. Alors, chacun fait comme il veut.
Voilà. Ah oui, je voudrais très bien qu'on précise cette partie de la chose, parce que c'est la plus grande partie qui oblige de nos jours les gens à vouloir écarter les femmes de l'administration, de l'émergence d'une nation. On pense qu'une femme au foyer n'a plus le droit à rien. Est seulement supposée être clouée au foyer, mais ce qui n'est pas normal.
Ouais, donc c'est bien pour ça que vous voulez qu'on précise que vous êtes maman de deux enfants et que ça n'empêche rien, c'est ça?
Ça n'empêche rien du tout. J'arrive très bien à jumeler et ma vie professionnelle et ma vie personnelle.
Ouais. Et comment, voilà. Comment vous faites, et surtout, pourquoi vous avez dit au Standard que les femmes peuvent contribuer à l'émergence du continent si on leur attribue de grandes responsabilités, des responsabilités qui vous reviennent de droit?
Justement parce qu'on ne leur attribue pas souvent ces grandes responsabilités. La société actuelle voudrait bannir carrément les femmes. Et actuellement, j'aimerais préciser qu'il y a eu un événement, par exemple, dans la semaine au Bénin où je suis,
oui.
où des parents ont confié à une petite fille des étalages, des marchandises à vendre. Au lieu que cette petite fille de 5 ans soit instruite et qu'elle émerge dans la société, on lui fait vendre des choses. Et elle a été violée. Elle a été attaquée par une personne de mauvaise foi qui l'a malheureusement violée. Donc voilà les choses pour lesquelles nous voulons agir dans la société.
Aujourd'hui, ça fait consensus, hein, la scolarisation des filles. Il n'y a plus de doute.
Pas du tout, alors.
Ah bon?
ça fait d'autant plus consensus que je salue notre auditrice donc du Bénin. Je voudrais justement donner un exemple concret aussi de ce que nous faisons au Bénin. Alors, je pense que il y a également le reflet. Alors, c'est important qu'elle parle de ses enfants. Il y a effectivement le reflet et également l'exemple que peuvent donner effectivement les femmes, les mamans, etc. par rapport à leurs filles. Donc, je pense qu'il est important que nous conservions ce lien dans le cadre de nos actions, de toutes nos actions de développement, etc., de manière à ce que les générations futures comprennent effectivement quels sont les combats aujourd'hui qui sont menés et que finalement c'est pour elles que nous faisons
mais
tout ça.
Ce que je voulais dire, c'est que quand il y a des événements, des faits divers dramatiques de ce type comme cette petite fille, globalement l'ensemble, la grande majorité de la population est scandalisée.
Oui. Alors moi je veux bien rebondir là-dessus, puisqu'effectivement on a l'impression, dès qu'on parle des droits des femmes, effectivement que finalement ça fait consensus, que le monde entier, les gouvernements du monde entier effectivement sont prêts à défendre les droits des femmes. Mais quand on regarde de plus près, effectivement, il faut être extrêmement vigilant au risque de justement cette défense et cette protection des droits des femmes ne se résume pas à un simple exercice de relations publiques, parce que ça devient facile pour les gouvernements par exemple, de s'afficher comme des défenseurs des droits des femmes. Et quand on regarde après ce qui est fait dans le pays, au niveau des lois nationales, on en est très très loin. Cette année, on va quand même fêter les 40 ans de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est une convention qui a été largement adoptée par énormément de gouvernements. Sauf que si on regarde de plus près, il y a énormément, de nombreux gouvernements qui ont adopté, en tout cas qui ont rejeté certaines dispositions de ce texte. C'est-à-dire qu'il faut qu'en apparence, on s'affiche comme prônant les droits des femmes, c'est quelque chose d'assez classique. Et derrière, dès qu'il s'agit de les mettre en œuvre et de les appliquer concrètement, effectivement, on va le faire à la carte.
Ouais, on pourrait dire exactement la même chose sur les enfants, hein, si ce
on
n'est
peut
que
dire
eux
la même
pas
chose
la parole
sur les
par rapport aux femmes qui, heureusement, prennent la parole.
Mais c'est important également qu'il y ait effectivement, je pense aussi, une image très positive que nous donnions, que nous donnions aux filles, aux enfants, ouais, etc. Et
alors,
les parcours de réussite.
J'allais poser la question à notre auditrice, Marthe Nadine, puisque vous êtes militante et en même temps vous travaillez. Qu'est-ce qui fait qu'une femme parvient à occuper la place qui lui revient de droit, pour reprendre votre formule? Qu'est-ce qui a fait que vous occupez cette place-là, qu'on vous la donne ou pas?
Parce que, il faut s'imposer dans la société. Il faut s'imposer. Quand on ne vous donne pas une place, il faut aller l'arracher. Dit-on, la liberté s'arrache. Quand on ne vous la donne pas, il faut aller l'arracher. Donc voilà, j'ai arraché ma place. Je dirige en même temps une boulangerie. Je dirige en même temps une maison de médias. Et en même temps, je m'occupe de ma famille. Donc voilà.
Oui. Et donc, ça veut dire que vous l'avez arrachée à qui, cette place, finalement?
Je l'arrache à la société qui refuse de faire valoir la place de ces femmes dans cette société.
D'accord. Moi, j'ai envie de rebondir parce qu'effectivement, il y a quand même la notion de combat là qui est très fort, parce que les femmes doivent effectivement, il y a un certain nombre d'entraves à l'exercice de leur liberté. Il faut véritablement monter au créneau, aller en première ligne, s'exposer et s'exposer de manière très grande, puisqu'effectivement, les femmes comme les hommes qui montent au créneau vont être victimes de tout un tas de violations des droits humains. Les femmes, ça va être encore plus, il va y avoir des attaques.
Et votre combat, Marthe Nadine, il est plutôt au sein de la famille avec votre mari ou au sein du business avec d'autres hommes qui sont en face de vous?
Le combat est carrément au quotidien, c'est autour de moi, non seulement sur les lieux de travail où on essaye de vous écarter presque parce que vous êtes une femme, mais aussi dans le foyer où il faut bien s'imposer, il faut savoir prouver que vous pouvez en même temps coordonner famille et vie professionnelle.
C'est une Amazone, hein, là, elle est véritablement en guerre. Là, hein, donc
ça... Merci de nous avoir appelé, Marthe Nadine, au Bénin. Et bien sûr, vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Les femmes sont-elles la clé de l'émergence? Justine était avec nous tout à l'heure, mais comme on a désorganisé un petit peu notre plan à cause des lignes téléphoniques, non, je voulais revenir bien sûr à vous, Patricia Jomseux.
Oui.
Patricia Jomseux, donc vous avez créé cette association, enfin elle était créée d'ailleurs de l'époque de votre mère.
Absolument, c'est ma mère qui l'a créée.
Women of Africa.
Je la salue, je lui fais un gros bisou. Elle est au Cameroun.
Aujourd'hui, l'essentiel de votre action, c'est de parler de votre parcours auprès de jeunes filles. Est-ce
tout
que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre parcours, Patricia?
Alors, donc, moi, je suis arrivée donc, en France avec mon bac. Hein, donc, à 16 ans, où j'intègre une prépa HEC. Et ensuite, une école d'ingénieur, un troisième cycle en management. Et puis, un autre troisième cycle en gestion à la Sorbonne. Et donc, j'ai également travaillé à l'étranger, donc aux États-Unis, en Colombie, au Brésil, donc au Bénin également, d'ailleurs. J'ai eu une expérience assez diverse. Alors, l'idée n'était pas tant d'accumuler des diplômes, parce que j'en ai quand même quelques-uns, mais c'était aussi d'avoir, très averti et d'avoir l'esprit ouvert sur un certain nombre de sujets de notre société.
Parlez beaucoup du rôle modèle.
Oui, absolument. Le rôle modèle, donc c'est mon père. Hein. Donc j'ai travaillé aussi beaucoup en Formule 1, en endurance, etc. Donc aujourd'hui, je dirige des entreprises dans le domaine de l'aéronautique, du ferroviaire, de l'automobile et du naval, du spatial également. Donc c'est vrai que ce parcours-là me permet aussi, dans le cas de Women of Africa, lors de mes déplacements en Afrique, de comprendre mieux quelles peuvent être les aspirations de filles et justement de les accompagner vers des métiers d'ingénieur, ce que je défends au corps et âme.
Vous défendez effectivement que les filles accèdent davantage à des formations scientifiques, d'autant plus sur un continent qui manque tellement de talents dans la technique, dans
Absolument.
La science. En même temps, ça peut sembler trivial de raconter des histoires de réussite aux femmes, parce que c'est pas ça qui va leur donner des financements pour monter une usine de noix de cajou.
Je suis parfaitement d'accord, mais en revanche, il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'éducation des filles, des jeunes, etc. Il est important que les filles soient éduquées, mais qu'elles restent suffisamment longtemps à l'école, qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire à un moment donné, de manière à consolider justement ces acquis. Lorsque je me rends en Afrique avec les présidentes de nos autres antennes africaines, que je salue également, nous échangeons avec les filles, notamment au Bénin, nous prenons aujourd'hui en charge les jeunes filles de la section scientifique, notamment du collège de Pau, seconde C, première C, terminale C. Alors, quel est le but? Le but, c'est justement, déjà,
elles sont minoritaires,
c'est la première chose.
Même si elles accèdent de plus en plus au lycée grâce aux politiques de scolarisation.
Mais d'autre part, elles ont la possibilité, avec l'accompagnement de l'association, d'accéder à des métiers d'ingénieur. Moi, je leur ai dit encore il y a quelques jours au Bénin, mais vous pouvez être astronaute. Alors, elles m'ont regardé avec des yeux tourants en me disant, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais finalement, elles ont compris le message que je voulais faire passer. Les ingénieurs en chimie, les ingénieurs en informatique, parler du numérique, je veux dire, former des chercheuses, etc. Même dans le domaine de l'agriculture, etc. Ces jeunes filles, aujourd'hui, ont la capacité, en étant accompagnées, d'atteindre ces objectifs-là pour l'Afrique.
En même temps, les femmes sont partout, on l'a dit. Elles sont les plus nombreuses, d'ailleurs, de toute la planète à créer des entreprises, mais des entreprises, en fait, la plupart du temps, informelles. Comment faire en sorte que, quand ces femmes entreprennent, faire grossir ces entreprises, organiser un changement d'échelle finalement, dupliquer des formules qui, toutes petites, fonctionnent très bien?
Alors, je pense que nous avons aujourd'hui un certain nombre d'expériences de nombreuses organisations de femmes qui travaillent sur le terrain. Nous avons également du recul parce que nous avons accès, je dirais, à l'information. Nous sommes également sur des plateformes où nous rencontrons d'autres organisations de femmes dans le monde, etc. Mais les modèles sont extrêmement différents. Donc, il n'est pas question de calquer ce qui se fait en Europe, en Afrique, de le transposer en Afrique sans pour autant tenir compte des spécificités africaines. Je pense qu'il faudrait, de mon point de vue, c'est à nous de nous adapter effectivement aux besoins des femmes. On a souvent dit, oui, les femmes n'ont pas accès au crédit, etc., parce qu'elles le bailleur ne parle pas la même langue que les femmes rurales.
Elles ont accès au microcrédit et elles remboursent très bien.
Elles remboursent très bien, mais en revanche,
elles ont
besoin de plus, c'est des petites sommes. Donc, en organisant les groupements de femmes et en structurant des groupements qui existent aujourd'hui, en leur apportant une nouvelle forme de technicité et de moyens, notamment technologiques, qui sont adaptés à leur compréhension, je dirais, elles pourraient, décupler leurs conditions et décupler, je dirais, leur richesse.
Vous
ça, c'est
nous
tout
appelez.
À fait possible.
On va donner la parole au standard. On y retourne. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Alfred est en ligne de Libreville. Allez, on fait une exception. On accepte un voisin. Bonjour Alfred, soyez le bienvenu.
Bonjour et bonne journée des droits de la femme à toutes les femmes.
Oui, c'est tout. C'est tous les jours hein, chez nous pratiquement. On vous écoute, Alfred.
Donc voilà, pour moi, comme je l'ai dit au standard, pour moi, les femmes sont vraiment la clé de l'émergence parce qu'elles sont non seulement le sort de la société, mais les femmes sont déjà au travail, sont plus efficaces et performantes que les hommes. Pourquoi? Parce que la société leur a obligé à travailler deux fois plus. Mériter que la même chose que les hommes. Et déjà, les femmes ont un cerveau plus développé que celui des hommes à cause des multitâches qu'elles effectuent chaque jour et tout. Donc, les femmes sont vraiment plus performantes que les hommes. C'est vraiment la clé d'émergence.
Alfred, vous avez 27 ans. Forcément, j'ai envie de vous poser la question en fonction de votre génération. Vous êtes un jeune entrepreneur, je crois.
Oui.
Est-ce que vous avez embauché des femmes? Elles ont une place particulière dans votre entreprise?
Oui, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé avec des femmes, même sur des projets, par exemple des événements et tout. Franchement, une femme, vous la mettez directrice de programme. Quand vous organisez, je ne sais pas, un forum ou quoi que ce soit, franchement, elle va très bien bosser. Moi, je connais des demoiselles, par exemple, dans la communauté J-Lab, qui est une communauté des start-upers ici à Libreville. mais c'est un temps exceptionnel quand ils travaillent. À chaque fois que je travaille sur un événement, je mets forcément une dame comme directrice de programme parce qu'elle sait qu'elle va tout bien gérer comme à la maison, quoi. C'est génial.
Et si une femme prenait votre place?
Si une femme prend ma place, bah, y a pas de problème. Tant que le résultat est là, tant que les choses sont bien faites, moi, y a pas de problème qu'une femme prenne ma place ou pas. Je trouve que c'est une très bonne chose.
Merci Alfred, en tout cas, de nous avoir téléphoné. 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI et on se pose la question si les femmes sont la clé de l'émergence. On l'a dit en début d'émission avec vous, Katia Roux, de Amnesty International. Les femmes veulent prendre une place qui leur revient de droit, mais elles ne parviennent pas encore à s'exprimer librement dans de nombreux pays. Et du fait de ce manque de liberté, il y a un problème pour accomplir aussi leur destin économique. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des droits économiques bafoués, ça fait partie pour vous de droits humains bafoués plus largement?
Bien sûr, les droits économiques, sociaux et culturels font pleinement partie des droits humains, au même titre que les droits civils et politiques. Donc tout ça est intrinsèquement lié. L'un ne va pas sans l'autre. Effectivement, on ne peut pas penser une autonomisation économique si les libertés fondamentales ne sont pas garanties. Mais l'inversement aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouir pleinement de ces libertés si on n'a pas une certaine autonomie. Donc tout ça doit être pensé ensemble. Et c'est vrai que là, on a vu de formidables exemples de projets d'autonomisation économique des femmes. Sur l'année écoulée, on a eu des exemples mais extraordinaires de mobilisation de femmes aux quatre coins du monde. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud ou l'Inde, où les femmes sont descendues dans la rue par milliers pour dénoncer les violences sexuelles endémiques. On a vu des mouvements aussi de rassemblement en Argentine, en Irlande ou en Pologne par rapport aux lois loi répressive sur l'avortement. On peut aussi penser à ces femmes dont le courage est absolument exemplaire en Arabie Saoudite ou en Iran, qui bravent le risque d'arrestation en prenant le volant en Arabie Saoudite par exemple, ou en défiant l'obligation de porter le hijab en Iran. Donc ce sont effectivement des mouvements très forts. En Europe, on peut penser au Japon, aux États-Unis, il y a eu cette deuxième vague avec du mouvement MeToo par exemple. Donc il y a quand même une montée du militantisme féminin absolument incroyable qui explique la répression du coup.
Et d'autant plus quand elles connaissent leurs droits. C'est
d'autant
très important.
Parce qu'elles sont aussi aujourd'hui dans de nombreux pays plus diplômées que les hommes. Pas partout, bien évidemment, mais dans certains pays. Ça veut dire que, vous le disiez en début d'émission, Katia Roux, aujourd'hui, quand les femmes sont attaquées pour leur militantisme, elles le sont aussi pour ce... Elles sont attaquées pour ce qu'elles font et pour ce qu'elles sont en elles-mêmes.
Absolument, absolument. C'est vraiment l'enjeu central, en fait, quand on pense à au combat des femmes pour les droits humains. C'est-à-dire qu'effectivement, la cause qu'elles portent, alors ça peut être les droits des femmes, mais ça peut être une autre cause, hein, ça peut être l'environnement, ça peut être effectivement des libertés fondamentales qui valent aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc ces causes-là, et on sait qu'il y a des causes qui sont particulièrement sensibles, vont susciter des attaques. Mais en tant que femme, parce qu'elles sont femmes et qu'elles s'expriment, elles vont aussi faire l'objet d'attaques, de pressions supplémentaires, notamment à caractère sexuel. Les hommes qui défendent les droits humains,
vie, hein,
voilà, exactement.
Elles sont des armes de guerre aussi.
Et les hommes qui défendent les droits humains vont être aussi attaqués, vont faire l'objet de campagnes de diffamation, de stigmatisation, de persécution judiciaire. Et les femmes, tout pareil, sauf que les campagnes de diffamation, la stigmatisation va très souvent revêtir un caractère sexuel, par exemple. C'est pas le cas pour les hommes. Les menaces sexuelles, la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent.
Mais ce qui est
partout,
intéressant aussi, c'est
dans
que le
combat
plus
des femmes.
Les femmes connaissent leurs droits, plus elles ont capacité à se déployer. Je prends un exemple très simple. Vous prenez le cas des femmes veuves en Afrique. Elles ont été stigmatisées, elles le sont d'ailleurs toujours, mais la situation évolue. De plus en plus, elles connaissent leurs droits. Les lois sur la famille, etc., sont diffusées, etc. Et donc, aujourd'hui, elles se constituent en organisation. Elles mettent en place des structures économiques,
etc. C'est pas toujours le cas pour l'avocate camerounaise Michèle Ndoki, par exemple.
C'est vrai, absolument. À qui on pense très fort aujourd'hui, c'est vrai.
Par contre, c'est vrai que ces femmes qui connaissent leurs droits prennent des risques. Et à un moment donné, on se rend compte aussi que La discrimination et les violations sont telles que même sans connaître les droits, ça émane. Ce mouvement, il vient aussi de l'intérieur. Oui. Et si je reviens sur l'exemple des femmes en Arabie Saoudite qui, jusqu'à l'année dernière, n'avaient pas le droit de conduire et étaient victimes d'un système de tutelle masculine extrêmement répressif, les femmes qui se sont battues pour obtenir ce droit ont été arrêtées un mois avant la mise en œuvre effective de la mesure qui Absolument. Autorisait les femmes à conduire.
Elles
connaissaient les risques, elles les ont pris.
Ça peut aussi être un outil de marketing politique, octroyer plus de liberté à des femmes pour mieux resserrer la vis
Absolument.
Derrière.
Tout à fait.
Absolument. Une répression ouais. d'autant plus violente.
Tout à fait. Et si je reprends cet exemple de l'Arabie Saoudite, il est extrêmement symbolique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand Mohamed Ben Salman est arrivé au pouvoir, il s'est ouvertement affiché, parce que ça faisait bien, comme un modernisateur qui allait ouvrir le pays, donner plus de droits aux femmes. Au moment où, effectivement, il annonçait cette mesure, qui est une avancée, évidemment, certes, en matière de droits des femmes, attendue de longue date, d'autorisation des femmes à conduire, au moment même où il le faisait, nous, on était en contact avec des femmes saoudiennes qui étaient sous pression, menacées par les autorités saoudiennes pour ne pas communiquer, pour ne pas montrer que cette avancée était une victoire de la société civile et des femmes, mais bien un fait du prince. Résultat, un mois avant la mise en œuvre de cette mesure, les femmes ont été arrêtées. Donc oui, il y a quelque chose qui se joue autour des droits des femmes avec la notion de c'est donner une bonne pervers. Image, oui. une réputation. Les gouvernements volontiers s'affichent comme pro-droits des femmes parce que ça fait bien. Mm-hmm. Et in fine, ça légitime finalement l'inverse, souvent sur le sol national.
Si on revient au continent africain, oui. Qui est le continent le plus jeune de la planète, avec une croissance démographique extraordinaire, est-ce que vous sentez déjà un changement générationnel, Patricia Jomseux ?
Absolument. Aujourd'hui, on assiste à une émergence, je dirais, d'une jeunesse assoiffée, je dirais assoiffée de conquête, de nouveaux territoires. Ils ont envie de participer à la vie politique. Vous avez énormément de jeunes femmes, de jeunes hommes qui mènent des projets absolument extraordinaires. Le milieu artistique extrêmement est en pleine émulsion, etc. Et donc tous ces jeunes-là font la même demande, c'est-à-dire que ils sont prêts effectivement à s'engager pour développer leur continent, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de moyens. Donc aujourd'hui, dans les quartiers, vous avez des groupes de jeunes femmes qui sont très actives dans le domaine social, ça c'est très important.
Qui s'emparent d'Internet,
au sein des entreprises,
surtout, qui se font connaître via Internet,
connaître via Internet, et c'est absolument extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on change totalement d'époque, et donc leur capacité d'adaptation et leur capacité d'ouverture d'esprit est absolument extraordinaire, d'une part, et d'autre part, il y a aussi le volet. Alors, grâce à eux, justement, on arrive justement aujourd'hui à mettre le point sur de nombreuses inégalités pour lesquelles nous sommes aussi engagés au sein de Women of Africa. C'est la santé, c'est très important, la santé des femmes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de santé sans parler de développement. Nous mettons en place bientôt en Guinée notamment un programme de prise en charge de l'HPP, l'hémorragie du postpartum, qui est la première cause de mortalité des femmes aujourd'hui en Afrique. Donc on a là à coucher, vous n'êtes pas sûr de rentrer chez vous. C'est quand même assez terrifiant. Donc ces dispositifs médicaux axés vers les femmes sont soutenus aussi par la jeunesse africaine, qui mettent en place des outils, des plateformes, énormément d'actions aujourd'hui pour contribuer à la richesse nationale. Et d'ailleurs, les économistes devraient peut-être aussi nous apporter leur aide pour nous dire quelle est la part, justement, en termes de PIB, de la création de la richesse par les femmes dans nos différents pays.
Les chiffres aujourd'hui sont éloquents. Les acteurs politiques disent qu'ils ont conscience de l'importance des femmes pour leur propre bilan. En même temps, vous n'avez pas l'impression, Cathy Haroux, qu'il y a un décalage entre une volonté affichée, certainement poussée dans les pays en développement par les ONG, par les institutions internationales, et puis finalement de vieux schémas dans la tête de vieux dirigeants.
Absolument, c'est tout à fait ça, et ça s'illustre de multiples façons. Effectivement, on va avoir des dirigeants qui vont, de par leur discours misogyne, stigmatisant, alimenter finalement cette discrimination à l'égard des femmes. On va avoir des gouvernements qui vont directement passer des lois qui sont discriminatoires ou prendre des mesures aussi qui sont discriminatoires. On parle de la santé, par exemple, de la santé sexuelle et reproductive. Effectivement, la loi du baillon mondial aux États-Unis ou encore la politique de Mexico qui, selon laquelle les des fonds fédéraux américains ne peuvent plus être distribués à des ONG étrangères qui travaillent sur ces questions, ça épuise et ça étouffe la société civile.
Merci en tout cas à vous toutes. Merci à vous, Katia Roux d'Amnesty International. Merci à vous, Patricia Jomseux de Women of Africa. Et merci à nos autres invités pour ce 8 mars. Merci à toute l'équipe. Lundi, 7 milliards de voisins. Ne manquez pas notre émission reportage d'Alice Milot dans la France, loin de tout, auprès des lycéens.